Bonjour. Combien seront-ils dans les rues de Paris? Les opposants à l'extension de la PMA pour toutes les femmes mobilisent ce dimanche contre le projet de loi bioéthique et sa mesure principale. Rien à voir, cela dit, avec les manifestations massives de 2012 contre le mariage pour tous. La plupart des politiques se sont fait porter pâle. Comprendre ce qui n'a pas marché à la préfecture de police de Paris, où un agent radicalisé a pu tuer 4 de ses collègues. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui veut resserrer les mailles du filet, lance 2 missions d'inspection. Il garde toute sa confiance au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui sera auditionné dans les jours qui viennent par la délégation parlementaire au renseignement. Ils n'en peuvent plus d'attendre un accord à gauche. Les écologistes feront cavalier seul pour les municipales à Marseille. Europe Écologie Les Verts annonce la constitution d'une liste emmenée par Sébastien Barle, qui sera en ligne avec nous dans un instant. Dans ce journal également, le Vatican, qui se met à son tour au chevet de l'Amazonie et réfléchit à une possible ordination des hommes mariés. Ce n'est pas sans rapport, on verra pourquoi. La reconstruction qui se poursuit à Saint-Martin, 2 ans après le passage de l'ouragan Irma. C'est le droit de suite de ce dimanche 13h, un dimanche marqué en sport par la qualification des Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby, qualifiée dans la douleur il y a quelques instants face au Tonga, battu d'extrême justesse 23-21.
France Inter.
On ne peut pas priver un enfant de père toute sa vie. Pour les opposants à l'extension de la PMA à toutes les femmes, la mesure principale du projet de loi bioéthique votée en première lecture, cette mesure marque un mépris des lois de la nature et c'est la porte ouverte, selon eux, à la GPA, gestation pour autrui. Ce dimanche devrait donc être l'occasion de se compter pour la 20aine d'associations qui ont appelé à manifester à Paris, où le cortège doit s'élancer dans un instant à quelques pas du Sénat où vous vous trouvez. Julie Pietri.
Leur nombre reste dur à évaluer. Les manifestants, familles, personnes âgées, prêtres sont encore dispersés en groupes éclatés, acheminés par des trains, des bus, dépêchés par les organisateurs. Liberté, égalité, paternité, marchons enfants sont les slogans du jour. Sur les t-shirts, sur les parapluies, sur les drapeaux, Georges et Armel étaient parmi les premiers sur place.
Je défends l'idée qu'il faut un père et une mère pour un enfant. Voilà. On l'avait déjà dit au moment de la loi sur le mariage pour tous, que ça allait arriver, et effectivement, ça arrive. C'est une espèce de rouleau compresseur qui se met en route aujourd'hui, et on se demande quand est-ce qu'il va s'arrêter.
J'ai l'impression qu'on est un peu des apprentis sorciers. On essaye d'aller au-delà de ce que la nature peut faire, de ce que la nature vous enseigne, et du coup, j'aimerais bien qu'à un moment donné, on fasse une pause. Vraiment, c'est inquiétant.
Côté organisateur, une 20aine d'associations qui testent aujourd'hui leur force de mobilisation. Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous.
Aujourd'hui, nous sommes dans la rue parce que nous voulons montrer au gouvernement notre détermination afin qu'il prenne en compte ces inquiétudes et qu'il réponde sur les points que nous soulevons, notamment la question de la marchandisation du corps des hommes et des femmes. Comment va-t-on garantir le fait qu'on n'ira pas acheter des gamètes à l'étranger lorsque nous en manquerons? Quelle garantie nous avons que la ligne rouge de la GPA ne sera pas franchie? Donc toutes ces questions-là qui restent sans réponse et pour lesquelles nous attendons que le gouvernement réagisse.
Les manifestants n'en ont pas conscience parce qu'ils ont maintenant les pieds dessus, mais ils marchent sur des messages écrits ici sur le sol par ceux qui soutiennent le projet de loi. Les Gouines emmerdent votre figure paternelle, PMA pour toutes et cœur aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Julie Pietri avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. Une 100aine de cars et 2 TGV ont été affrétés pour l'événement auquel cette fois, contrairement aux manifestations contre le mariage homosexuel, peu de politiques ont annoncé leur participation, sinon quelques figures des Républicains comme François-Xavier Bellamy ou encore du Rassemblement National comme Gilbert Collard. Christophe Castaner a toute ma confiance pour le Premier ministre Édouard Philippe qui le dit au JDD ce matin. Le ministre de l'Intérieur était dans son rôle quand il a fait état de ce qu'il savait sur la tuerie de jeudi à la préfecture de police de Paris. Aucun signe d'alerte n'avait été décelé concernant le tueur. Michael Harpon avait déclaré le ministre, sans imaginer bien sûr ce qu'allaient ensuite révéler les premières investigations. D'où ces 2 missions qu'a décidé de lancer Édouard Philippe sur la détection d'éventuels signes de radicalisation parmi les agents du renseignement. Nous allons resserrer les mailles du filet, indique le Premier ministre, qui reconnaît en somme l'existence de failles dans les actuelles procédures. Emmanuel Leclerc, la première chose, c'est déjà de comprendre comment ce qui est arrivé est arrivé.
Oui, la première de ces missions concerne directement la DRPP, la direction du renseignement de la préfecture de police parisienne, là où travaillait Michael Harpon. Les inspecteurs ont un mois pour vérifier les process internes de détection des phénomènes à risque, dont la radicalisation, quels sont les outils mis en place. La deuxième mission, elle, concerne tous les autres services de renseignement spécialisés dans la lutte antiterroriste. Là, le Premier ministre a donné 3 mois à l'inspection générale du renseignement pour rendre son rapport. Deux enquêtes qui ne posent sur le principe aucun problème en interne, mais pour Jean-Marc Bailleul, le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Il faut élargir à tous les services de police pour éviter les phénomènes de suspicion généralisée liés notamment à la pratique religieuse.
Il faut mettre les choses à plat pour dire que ce n'est pas lié forcément à une tendance religieuse ou à quelqu'un qui se soit converti, mais de manière générale, faire en sorte que quand on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, eh bien, on les règle. Il faut le voir de manière plus générale, justement pour éviter de stigmatiser, d'ouvrir de la suspicion généralisée dans les services de police. Quand on sent que quelqu'un a une fragilité, à une déviance, notamment par rapport à son comportement politique ou religieux, peut-être faire en sorte qu'il ne soit plus dans des services à risque, qu'ils soient de renseignement ou de sécurité publique.
Jean-Marc Bailleul estime donc qu'il faut absolument déclencher en parallèle une mission de l'inspection générale de la police nationale.
Et en attendant de comprendre, en attendant aussi l'éventuelle mission d'enquête parlementaire, c'est la délégation parlementaire au renseignement qui auditionnera Christophe Castaner dans les heures ou les jours qui viennent. Le Premier ministre qui s'est aussi exprimé dans le JDD sur les retraites ce matin en disant prendre la contestation et les menaces de grève très au sérieux, mais je ne crois pas, dit-il, que les Français accepteront des blocages qui auraient pour objet de conserver des régimes particuliers qui n'ont plus lieu d'être. En politique également, une liste Europe Écologie Les Verts à Marseille. Alors que les partis de gauche et des collectifs de militants discutent depuis des semaines d'une possible liste d'union, le parti de David Cormand et Yannick Jadot a décidé de se lancer sans attendre dans la campagne en annonçant la création d'une liste écolo-citoyenne qui sera conduite par Sébastien Barle, qui est en ligne avec nous de Marseille. Bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi donc cette précipitation d'Europe Écologie Les Verts à se lancer en campagne ?
Mais précipitation, je ne sais pas si c'est une précipitation, mais en tout cas, Marseille est en état d'urgence. Marseille, il y a une vraie crise écologique, démocratique et sociale à Marseille. Et ce que l'on souhaite, c'est vraiment que l'écologie soit la matrice, en fait, qui réponde à ces trois urgences à Marseille. Ce que l'on veut, c'est rassembler autour de l'urgence écologique l'ensemble des Marseillais pour sortir cette ville qui est la plus inégalitaire, la plus polluée, la plus embouteillée de France, de son marasme.
Oui, mais vous étiez tous en train de discuter, la France Insoumise, le PC, le PS, tous étaient disposés à partir ensemble.
Oui, mais nous, ce que l'on pose vraiment, c'est la question du primat de l'unité sur le primat d'écologie. Ce que l'on veut, ce n'est pas sauver la gauche et les partis, parce que ce processus risque de s'enliser dans une espèce de cartel des gauches. Nous, ce que l'on veut, c'est poser le rassemblement des écologistes et le primat d'écologie comme au cœur d'un projet pour transformer la ville. On voit bien, en fait, dans tous les sondages qu'aujourd'hui, les déçus du système, et à Marseille, Dieu sait s'il y a des gens qui s'abstiennent parce qu'ils sont déçus par ce système clientéliste, affairiste, et bien les déçus du système, c'est l'écologie qui les réveille, c'est l'écologie qui les ramène aux urnes.
Oui,
et
mais donc, vous n'avez pas le monopole, oui, de l'écologie.
On n'a pas le monopole de l'écologie, et on espère, ça, c'est pas uniquement une liste Europe Écologie Les Verts, l'idée c'est de rassembler, on a commencé à rassembler des jeunes de la génération climat. Il y a même des gens des quartiers populaires de Marseille, des collectifs qui nous rejoignent parce qu'ils considèrent qu'effectivement la question de la précarité énergétique est un vrai souci dans les quartiers, la question de la malbouffe également. Et donc effectivement la question écologique, aujourd'hui, elle irrigue tous les quartiers de Marseille, elle irrigue les consciences à Marseille et on veut rassembler autour de cette priorité qui est l'écologie à Marseille.
Non, mais Sébastien Barle, là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Simplement, est-ce qu'il n'y a pas une question de méthode ? Là, vous dites, nous, on y va, et si vous voulez y aller, vous nous rejoignez.
Non, mais nous, on considère effectivement qu'il y a des partenaires. On ne va pas gagner tout seul cette ville. Donc l'idée, c'est on reconnaît qu'il y a des partenaires. Aujourd'hui, il y a un mouvement citoyen qui s'appelle le Pacte démocratique à Marseille, avec lequel on souhaite dialoguer. Il y a un rassemblement qui s'appelle le Rassemblement inédit également. On va dialoguer avec eux, c'est avec eux qu'on a vocation à gouverner cette ville. Donc on continue à dialoguer, mais nous, ce que l'on souhaite, c'est poser cette liste écolo-citoyenne et entrer en campagne, parce qu'il y a tellement de d'enjeux dans cette ville qu'il faut entrer en campagne dès maintenant.
Alors il y avait moins d'une centaine d'adhérents présents à votre assemblée générale hein, pour voter. Pour voter cette entrée en campagne.
Il y avait une grève hier à Marseille des transports.
Mais c'est un peu maigre pour décider, non?
Mais c'est un peu maigre, vous savez, c'est toujours pareil. Qui est légitime pour décider? Quand on a fait l'état généraux, qui ont prêté le serment du jeu de paume, il n'y avait pas une foule considérable, mais il y a des représentants. Ce que l'on représente, ce que représente cette liste écolo-citoyenne, c'est pas uniquement les militants ELV, je vous le disais, c'est l'ensemble des personnes qui, à Marseille, aspirent à ce que l'écologie soit au cœur d'un projet pour transformer la ville, cette ville qui souffre tant. Et donc, l'idée, c'est de sauver la gauche, c'est vraiment de sauver Marseille, de sauver les Marseillais dans cette ville qui est gangrénée par le clientélisme, par l'affairisme, par tant de misère. Et donc, voilà, c'est vraiment c'est cette offre-là qu'on souhaite porter, mais collectivement, pas uniquement autour de nos petits drapeaux ELV.
Voilà, Marseille où Jean-Claude Gonin va laisser son fauteuil après 25 ans de mandat. Merci Sébastien Barle, candidat d'Europe Écologie Les Verts, donc à Marseille. Une journée et une nuit dans un centre commercial pour les militants du mouvement Extinction Rébellion, c'était une façon de pointer du doigt un symbole du capitalisme, en l'occurrence le centre Italie 2 à Paris, un centre qu'ils ont finalement évacué à 4h ce matin sous la pression des forces de l'ordre. 25 000 personnes confinées à domicile à Boulogne-sur-Mer, à Outreau et au Portel. Le temps de désamorcer une bombe de la dernière guerre, une bombe américaine de 250 kilos récupérée par un pêcheur et stockée dans un local sur le port. Elle doit être ramenée en mer où les démineurs la feront exploser. Des sirènes indiqueront la fin de l'opération sans doute en fin d'après-midi. C'était il y a 2 ans à Saint-Martin. L'ouragan Irma faisait des ravages sur l'île des Caraïbes, tuant 11 personnes et mettant à terre de très nombreux bâtiments publics et privés. L'année dernière, le président de la République en visite sur place avait mis la pression sur les autorités locales pour qu'elles accélèrent les travaux de reconstruction. Et aujourd'hui, malgré la reprise progressive de l'activité touristique, les chantiers restent nombreux. C'est le droit de suite de ce journal avec Yann Gallic.
Des écoles de fortune, des immeubles et des maisons sans toit, des habitants au chômage. Il y a un an, Emmanuel Macron constatait tout le chemin qu'il restait à parcourir pour reconstruire Saint-Martin lors de sa visite dans une cité HLM de Lille.
C'est inacceptable ce qu'on voit là. Depuis un an, les toits n'ont pas été faits. Ça, c'est pas acceptable. C'est une île dans laquelle il y a eu trop de connivence, dans laquelle il y a eu trop d'entente, parfois même de la corruption. Il faut que ça cesse.
Aujourd'hui, 74% des logements sinistrés ont été rebâtis à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, selon les derniers chiffres de la préfecture. Pascal Couchy dirige une société spécialisée dans la fabrication de tôles pour les toitures. Il lui a fallu un an et demi pour reconstruire son entreprise, qui avait été complètement ravagée par l'ouragan.
Le gros problème aujourd'hui, c'est un problème financier. Toutes les entreprises immobilières qui ont un pouvoir financier, les travaux avancent. Après, des entreprises immobilières qui ont peu de moyens, les travaux n'ont pas encore commencé et les particuliers qui n'ont pas eu les moyens de reconstruire les bâtiments, on se retrouve avec quelques bâtiments comme ça qui, le toit n'est pas encore fait. Il y a aussi des bâtiments qui ont été abandonnés carrément à la reconstruction.
Il y a encore beaucoup à faire, notamment dans la mise aux normes des écoles, la réhabilitation des réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité. Certains sinistrés restent dans une situation précaire, explique Marc, un habitant de Lille.
On avait tous l'envie, l'idée que ça irait vite, qu'on allait se redresser, etc. Et là, c'est particulièrement long. Il y a un interventionnisme de l'État et il y a un développement des réglementations qui complique énormément. Et la normalisation sur des territoires comme les nôtres, c'est une catastrophe. Il faut faire du sur-mesure, il faut tenir compte des réalités.
À Saint-Martin, les responsables locaux le reconnaissent. Il faudra encore du temps, disent-ils, avant d'achever ce vaste chantier de reconstruction.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Les semaines se suivent et se ressemblent à Hong Kong. Des milliers de manifestants ont encore bravé ce matin l'interdiction de défiler, le visage masqué. 2 jours après avoir été vandalisés, la plupart des stations de métro sont restées fermées, ce qui a pour effet d'exacerber encore un peu plus les tensions. Florence de Changy.
Fermer le métro dans une ville où 90% de la population dépend des transports publics, c'est évidemment un moyen très efficace de garder les gens chez eux. Jamais une telle mesure n'a été imposée à Hong Kong. De même qu'en ayant recours à une procédure d'urgence pour faire adopter une loi anti-masque, le gouvernement a confirmé que sa seule stratégie était celle du rapport de force. Car il espère qu'en acculant les manifestants jusqu'aux boutistes, la population va finir par rejeter le mouvement. C'est l'appel qu'elle lance explicitement dans une vidéo diffusée hier. Mais les Hongkongais ne sont pas dupes. Ils ont pris la fermeture du métro comme une mesure de rétorsion, une punition dictée par le gouvernement, et non comme une mesure de sécurité. Mais les manifestants font eux aussi face à un dilemme. S'ils arrêtent les actes de vandalisme et les attaques contre la police, le gouvernement pourra en tirer crédit et affirmer que ce sont ces mesures qui ont mis fin à la violence. S'ils persistent, ils risquent en effet d'être peu à peu lâchés par le reste de la population, alors que certains secteurs de l'économie sont déjà au bord de l'effondrement. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
À l'étranger également, jour de vote en Tunisie, des élections législatives très incertaines, plus de 8 ans après la chute de Ben Ali, c'est la désillusion qui domine. L'abstention pourrait être forte. Au Portugal, le premier ministre sortant, le socialiste Antonio Costa, est largement favori dans les sondages. Ce sont également des élections législatives. Et puis au Kosovo, les partis issus de la guerre d'indépendance contre la Serbie il y a 20 ans sont divisés et pourraient perdre leur majorité. Et si l'ordination des hommes mariés passait par l'Amazonie. Façon curieuse d'aborder la question et pourtant, elle sera au centre du synode qui s'ouvre aujourd'hui à Rome pour 3 semaines, une réunion des évêques pendant laquelle les représentants des 9 pays de la zone amazonienne voudraient faire entendre le cri des pauvres et pour la protection des populations indigènes, ils envisagent notamment de pallier le manque de prêtres dans la région en étudiant la possibilité d'ordonner des hommes mariés, ce qui serait bien sûr une révolution dans l'Église catholique, une révolution que certains refuse absolument Bruce de Galzin à Rome.
Mois de jeûne et de prière, c'est une croisade contre le synode qu'ont lancé un cardinal de Curie, le très conservateur Burke, et d'autres cardinaux et évêques. Burke dénonce l'hérésie de la fin du célibat des prêtres. Le secrétaire général du synode, le cardinal Baldisseri, veut calmer les esprits.
Si studi, hein? Les paroles sont pesantes.
Il faut étudier, les mots sont pesés, étudier la possibilité d'ordonner prêtres des anciens, de préférence indigènes, respectés par leur communauté et qui peuvent même avoir une famille établie et stable.
La question se pose car près de 80% des communautés en Amazonie n'ont pas accès aux prêtres. Le cardinal brésilien Humes, rapporteur du synode, veut donc trouver une réponse. Il souhaite aussi que les femmes aient plus de poids.
Il faut que le travail qu'elles font soit un peu plus institutionnalisé afin qu'elles obtiennent plus d'autorité. C'est ce que l'on demande, nous, les évêques, les pasteurs, les missionnaires.
Les femmes n'accéderont pas pour autant à la prêtrise. En revanche, le célibat des prêtres sera aussi discuté par l'Église allemande et donc européenne qui débutera, elle, son synode le mois prochain. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et à l'ouverture de ce synode, à l'instant, le pape a déploré les incendies de l'Amazonie allumés, dit-il, par des intérêts qui détruisent. Ce type de feu dévastateur, a dit le pape François, vise à brûler les diversités pour uniformiser tous et tout. En sport, en rugby, c'est ce qui s'appelle une victoire au forceps pour les Français, vainqueurs ce matin des Tonga et donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Mais 23-21, que ce fut laborieux, Jérôme Val.
Eh bien oui, depuis le début de cette Coupe du Monde, le scénario se répète pour ce 15 de France, incapable de maîtriser une partie de bout en bout comme face à l'Argentine, face aux États-Unis, donc tout à l'heure face aux Tonga. Les Bleus ont pourtant rapidement mené 17-0 à la demi-heure de jeu, avec notamment un essai de Lely Alivere-Tiraka, son deuxième en 4 jours, avant de s'éteindre à petit feu. Le Tonga est revenu à 17-14 dans l'entame de la deuxième période et c'est le pied de l'ouvreur Romain Tamak avec 2 pénalités qui a redonner une avance appréciable jusqu'à donc cette ultime frayeur et un nouvel essai tongien dans les dernières minutes. Alors évidemment, on pourra gloser à l'infini sur ces 2 essais refusés aux Bleus pour des en avant. N'empêche, ce 15 de France est encore friable, mais il a assuré l'essentiel. Une victoire qui le propulse donc vers les quarts de finale. C'est même un sans faute pour des Bleus sur le plan comptable avec 3 victoires d'affilée dans cette poule. C'est pas mal pour une équipe qui n'est pas flamboyante, mais qui décidément aime se faire peur avant d'affronter l'Angleterre et d'avoir ce quart de finale.
Voilà, un France-Angleterre qui permettra de départager les 2 équipes et qui peut avoir son importance malgré tout pour la suite. Merci Jérôme Val. En sport hippique, c'est la course la plus prestigieuse du monde. Le prix de l'Arc de Triomphe, tout à l'heure à Longchamp, catégorie la plus élevée, groupe 1, course de groupe 1 réservée au pur sang anglais. C'est la plus belle chance française. C'est un cheval normand qui répond au nom de Sotsas, né au haras des Monceaux dans le Calvados. Il s'entraîne à Deauville, Clémentine Vergniaud.
Après avoir gagné le prix du Jockey Club, une course de groupe 1 au printemps, Sotsas a confirmé son potentiel à la mi-septembre en remportant le prix Niel à Longchamp. Une course de groupe 2, certes, mais de quoi penser qu'il a toutes ses chances cet après-midi. Et pour le mettre dans les meilleures conditions, son entraîneur Jean-Claude Rouget ménage sa monture.
Éviter les embûches, comme on dit, prendre de la précaution. Les entraînements ne sont pas poussés parce que le cheval a couru il y a 3 semaines. Donc, l'entraînement en lui-même est assez cool, mais... On prie Dieu tout le temps qu'il se mette pas un coup, qu'on fait de la surveillance la nuit, qu'il aille pas se coincer dans son box. J'ai beaucoup d'attention.
Le pur sang anglais de 3 ans a la victoire dans son ADN. Son père est celui dont la progéniture rapporte le plus en France. Sa mère est une fille du meilleur étalon du monde. Sa sœur, la meilleure jument américaine sur gazon. Pour autant, Jean-Claude Rouget reste prudent quant à un possible exploit de Sotsas.
Ça va jouer à celui qui sera dans le meilleur jour. Ils sont comme nous. Il y a des jours où on a envie et des jours où on a moins envie, les chevaux c'est pareil, donc c'est la forme du jour, plus le bon parcours, plus il y a beaucoup de facteurs qui jouent quoi.
Pour gagner, Sotsas va donc devoir donner le meilleur de lui-même et surtout battre une adversaire de taille, Unable, une jument qui a gagné les 2 dernières éditions et voudrait bien signer un record avec une 3e victoire.
Le prix de l'Arc de Triomphe tout à l'heure à Longchamp, retransmis dans 50 pays.